Dans le dernier épisode, je te parlais de comment tirer profit du mois de Ramadan. Et là, je vais te prodiguer des conseils, des idées et des astuces concrètes pour mettre en pratique tout ce dont je t'avais parlé dans les épisodes précédents. Tous les conseils que je vais te donner là, ce sont des conseils personnels, hein. C'est pas, ça vient pas d'un savant ou quoi que ce soit. Ça vient vraiment de moi. Ok, ma sœur? Dans une journée, il y a 24 heures. Et 24 heures, ça passe vite. Extrêmement vite. Surtout quand on a des journées chargées et rythmées par les cours, par le travail, les études, les enfants. On a tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer, qu'on ne voit pas le temps passer. On se retrouve malheureusement à se contenter du strict minimum envers Allah. Tu aimerais faire plus, mais tu n'y arrives pas, ou plutôt, tu penses ne pas pouvoir y arriver. Mais détrompe-toi, le temps pour Allah, tu peux le trouver. Et je vais te le démontrer. Et dis-toi que moi, je suis maman de 3 enfants, hein, ok? Je suis une femme mariée et j'ai un enfant qui est sévèrement autiste. Je passe mon temps à courir entre l'école et les rendez-vous de mon fils. J'ai un quotidien, subhanallah, qui est hors norme. Le handicap de mon fils prend et demande énormément de temps. Donc, je te parle en connaissance de cause. Et tu vas voir qu'en réalité, malgré toutes tes occupations, tu as du temps pour Allah. Beaucoup plus que tu ne le penses. Déjà, j'ai un principe auquel j'essaye de me tenir autant que possible, c'est commencer la journée en adoration et la terminer en adoration. Quelle que soit l'adoration en question, hein. Et c'est mon premier conseil. La première action que je fais en me réveillant, avant même de prendre mon téléphone, c'est la doua du réveil. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir. Et c'est à lui que tout retourne. Commence ta journée en rendant la louange à ton Seigneur, en le remerciant, en lui étant reconnaissante de t'avoir rendu la vie après t'avoir fait mourir. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, le sommeil, subhanallah, est le frère de la mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le sommeil est le frère de la mort et les gens du paradis ne dorment pas. Rapporté par Abu Nuaym. Remercie Allah de t'avoir ramené à la vie. Car pendant que tu dors, ton âme, elle est comme suspendue. S'il est décrété que tu meurs, ton âme ne retournera pas dans ton corps. S'il est décrété que tu restes en vie, alors ton âme retourne dans ton corps. Comme Allah le dit dans le verset 42 de la sourate Az-Zumar, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Il reçoit aussi dans leur sommeil celles qui ne sont pas mortes. Il retient celle dont il a décrété la mort et il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a vraiment là des signes pour ceux qui méditent. La louange et la reconnaissance envers Allah sont des adorations du cœur que tu évoques par la parole en disant la dua. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Et c'est avec ça que tu débutes la journée. Ensuite, il faut se lever direction les ablutions pour la prière du Fajr, qui est la raison de ton réveil. Hein. Une fois la prière accomplie, tu prends ta citadelle et tu récites les invocations du matin. Concernant les adhkar après la prière, les invocations après la prière, personnellement, je ne les fais pas systématiquement. Parfois je les fais, parfois je ne les fais pas. En revanche, les invocations du matin et du soir, c'est un automatisme. C'est devenu une habitude. Elles font partie de ma routine quotidienne. Par moment, je ne vais pas avoir le temps de faire celle du soir parce que voilà, je suis dehors, je suis à un rendez-vous, je suis en train de faire les courses ou autre, mais je fais toujours au moins celle du matin. Si je ne les fais pas, je ne suis pas bien, ça me rend malade. Très honnêtement, je passe pas une bonne journée. Ça prend entre 10 minutes et un quart d'heure. Ça dépend du débit de lecture, mais pour ma part, je ne dépasse pas un quart d'heure. L'invocation du réveil, Salatul Fajr, et les invocations du matin, c'est le trio gagnant de la matinée. En faisant les trois, ta journée ne peut que bien commencer. Allah, il te facilitera malgré toutes les difficultés auxquelles tu fais face au quotidien. En ouvrant ta journée, en évoquant Allah, en l'invoquant et en le priant, alhamdulillah, tout devient beaucoup plus facile, tout devient surmontable et supportable. D'ailleurs, ça me fait penser que souvent, les gens ils me demandent, mais Hawa, comment tu fais avec ton épreuve, subhanallah, même quand je vais au CMP pour les rendez-vous de mon fils, il y a une phrase que le psychiatre qui le suit aime beaucoup me dire, c'est « De toute façon, vous avez la situation en main concernant mon épreuve. » Genre, ça les étonne. Et ce qui fait toute la différence, c'est que ma journée, elle a commencé pour Allah. La première pensée que j'ai, elle est pour lui. La première action que je fais, elle est pour lui. Le premier que je remercie et envers qui je suis reconnaissante, c'est Allah. Alors, comment ma journée pourrait démarrer autrement et se passer autrement que bien, subhanallah? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le réveil pour Fajr et pour qui malheureusement, c'est devenu une habitude de ne pas l'accomplir en son temps et la remettre à plus tard. D'abord, c'est extrêmement grave de retarder Salat al-Fajr. Parce que si Allah a fixé les prières à des moments précis, c'est qu'on doit les respecter, ces moments. C'est comme un emploi du temps. C'est organisé de manière à ce que chaque matière ait lieu à telle ou telle heure et dans telle salle. Si ce n'est pas respecté, ça devient l'anarchie et on ne s'en sort pas. Il en va de même avec la prière. Tu dois respecter son timing. Sinon, subhanallah, on prierait tous n'importe quand et n'importe comment et ce serait du grand n'importe quoi. On prie Allah à des moments qu'il a déterminés à l'ensemble de la communauté. Tu dois respecter ces temps. Mais si tu commences ta journée en enfreignant ce qu'Allah a établi, en ratant volontairement ton premier rendez-vous de la journée avec lui, parce que tu as préféré dormir, alors là, tu commences mal. Comment veux-tu que le reste de ta journée se déroule correctement? C'est comme lorsque tu prends un rendez-vous quelque part ou avec quelqu'un, tu sais que tu dois être là à l'heure, sinon ton rendez-vous il sera annulé. Alors tu vas faire toutes les causes pour ne pas le rater, quitte à arriver plus tôt. Si tu es en retard, tu vas ressentir une pression, tu vas stresser, tu vas appeler pour prévenir que tu ne seras pas à l'heure, tu vas même t'excuser, hein, et faire en sorte que ton retard soit le plus raisonnable possible. Eh bien, ma sœur, c'est exactement de cette façon que tu dois agir avec tes prières. Lorsque tu n'accomplis pas Salat al-Fajr, ou n'importe quelle autre prière d'ailleurs, c'est comme si ta journée elle était gâchée, car tu l'as débutée avec un énorme péché. Quand tu sais que tu es attendu, tu sors en avance. Tu fais tout pour être au minimum à l'heure prévue. Quand tu sais qu'il y a la prière du Fajr qui t'attend le lendemain matin, hein? Pourquoi tu ne dors pas un peu plus tôt? Pourquoi tu n'anticipes pas ton réveil? Sachant que, subhanallah, le fait de dormir tôt, c'est une cause pour que tu parviennes à te lever à temps. ta matinée, elle est gâtée, ça y est. S'il n'y a pas de réveil pour le Fajr, s'il n'y a pas de Salat al-Fajr, il n'y a pas d'invocation du matin non plus. Et là, ma sœur, tu as déjà tout raté. Même si tu accomplis toutes les autres prières à l'heure, il manque une pièce dans le puzzle. Ta journée, elle est incomplète et ça vient fausser tout le reste. Il n'y a rien de mieux que de démarrer sa journée en adorant Allah. Tu ne peux pas donner de ton temps dans plus beau, plus utile et plus bénéfique que ça. Deuxième conseil, évoque et mentionne Allah lorsque tu es occupé ou en mouvement. Le silence, c'est bien. Hein? Il est mieux de se taire que de trop parler. Il y a même un dicton hein, qui dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. Et moi, j'ajouterais que l'évocation d'Allah est de diamant. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, on a toutes nos occupations en tant qu'étudiante, voilà, en tant que travailleuse, les transports, la voiture pour parvenir au lieu de travail ou en cours, en tant que maman avec les enfants et la gestion du foyer. Eh bien, justement, profite de ces moments quand tu cuisines, quand tu fais du rangement, quand tu es dans les transports, même quand tu marches, pour évoquer Allah. C'est-à-dire que, subhanallah, tu peux faire de tes occupations et de ton temps des moments précieux. N'importe quelle action, dans n'importe quel moment de la journée, peut devenir une adoration dès lors que tu y évoques Allah. L'évocation de ton Seigneur est bien meilleure que le silence. Au lieu de ne rien dire, d'être silencieuse comme une carpe, hein? Mentionne Allah, mentionne ton Seigneur. Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Absolument rien. À moins que tu préfères faire autre chose. Mais là, c'est Ramadan. Tous les moyens sont bons pour se rapprocher d'Allah. Et en plus, il y a mille et une façons de l'évoquer. Les formules de zikr, il y en a plein. Moi, ce que j'aime faire, comme je ne compte pas le nombre de fois où je dis une formule de zikr, sauf pour les invocations du matin et du soir, pendant 3 minutes, par exemple, je vais répéter une seule et même formule de zikr. Par exemple, je vais dire subhanallah, 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 comme ça pendant 3 minutes. Après, je vais prendre une autre formule que je vais répéter non-stop, pareil, pendant 3 minutes. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et en 3 minutes, hein, tu peux mentionner ton Seigneur au moins 200 fois. Facile, voire plus. Hein. Voire plus. Tout dépend de la longueur de la formule en question. Mais, en tout cas, les moments comme ça, où tu peux faire du zikr, il faut les prendre d'assaut. Partout où tu peux le faire, fais-le. Sinon, c'est du temps perdu. Ne perds pas ton temps à être silencieuse quand tu peux évoquer ton Seigneur et gagner une montagne de hasanat. Subhanallah. Et puis, la récompense qu'il y a dans le simple fait de remuer ta langue au rythme de l'évocation d'Allah, c'est dingue. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Et le zikr le plus méritoire, c'est celui qui se fait avec le cœur et avec la langue. C'est-à-dire qu'il faut que ce que tu dises, tu le ressentes, que ce soit imprégné en toi, en ton fort intérieur. Mais même le zikr de la langue, il est grandement récompensé. Parce que c'est à force de mentionner Allah que sa parole pénètre dans ton cœur. Et si jamais tu ressens de la fatigue, que tu commences à ressentir de la soif, parce que le fait de répéter, c'est vrai que ça assèche la bouche, à force, tu n'as plus de salive, hein. Eh bien, écoute du Qur'an, écoute un rappel, écoute un cours, écoute quelque chose qui te sera bénéfique. Toute chose que tu écoutes, et par laquelle tu en apprends sur la religion, est une adoration. Inch'Allah. Ok? Troisième conseil, ne te mets pas de pression. Ramadan, c'est le mois du Coran. Ramadan, c'est le mois des adorations. Mais on n'a pas dit que c'est le mois de la pression. Pourquoi je te dis ça? Le but, inshallah, c'est de te réformer en te rapprochant d'Allah par le biais des ibadat. Mais attention, ce n'est pas une compétition à qui lira le plus de pages de Coran, à qui fera le plus de prières, à qui ira le plus à la mosquée. Non. L'état d'esprit que tu dois avoir, c'est faire mieux qu'avant, faire mieux que l'an passé, faire mieux qu'hier. Tu dois chercher à être en constante évolution dans l'adoration et dans ta relation avec Allah. Certes, tu dois augmenter tes actes d'adoration, mais il faut surtout qu'elles soient de qualité. Allah préfère la qualité à la quantité. En fait, il faut faire les choses step by step. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de ne pas trop faire d'un coup pour éviter un contre-coup, justement. Commence un peu, crée-toi une routine, prends des habitudes et augmente graduellement. L'adoration, subhanallah, c'est un cheminement. On apprend, on met en pratique et on patiente. Ça me fait penser à une anecdote que je dois absolument te partager là, qui vient de ma prof de Qur'an, Oustad Humaira, qu'Allah la préserve. Dans le verset 43 de la sourate An-Nisa, Allah dit « Ô les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres. » Avant la venue de l'islam, les Arabes étaient des grands consommateurs d'alcool. C'était leur boisson préférée. Ils avaient carrément des tonneaux d'alcool chez eux. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam, il a dû faire un véritable travail d'éducation envers la communauté. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu du jour au lendemain en disant aux gens « L'alcool, c'est haram, on arrête tout. » Non, pas du tout. S'il avait agi ainsi, personne n'aurait accepté de le suivre. Personne ne l'aurait écouté. Déjà que, subhanallah, ça a été très difficile pour lui de propager l'islam. Ça a été éprouvant. Et il a été extrêmement patient. Il ne pouvait pas venir comme ça et tout leur interdire. Il leur a parlé, leur a expliqué, les a éduqués pour qu'ils soient aptes à adorer Allah. Et petit à petit, ils ont compris et ils ont accepté, ils se sont soumis. Pourquoi? Parce que le prophète sallam leur a appris, leur a enseigné. En parlant d'apprentissage, profite du mois de Ramadan pour apprendre l'arabe, pour apprendre à tisser un lien avec le Coran, apprendre à t'habituer au Coran et apprendre à te rapprocher d'Allah. Parce que Allah, c'est As-Sabour, c'est le patient. Il est la patience même. Apprends, mets en pratique et ne te mets pas de pression. Fais et sois efficace dans ce que tu fais en étant régulière et assidue. Dans le verset 65 de la sourate Maryam, Allah il dit « Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme ?» Et dans le verset 46 de la sourate Al-Kahf, Allah il dit « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. » Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une belle espérance. Tout est dit, subhanallah. Quatrième conseil, ne sous-estime aucun de tes actes. Ma sœur, ne minimise aucune de tes adorations. Ne déprécie pas le poids de tes actions. Je te dis ça parce que souvent, on a tendance à négliger et à délaisser des actes d'adoration et d'obéissance car on se sent hypocrite. On ne se sent pas légitimes ou dignes de les faire. C'est comme les sœurs qui disent qu'elles ne peuvent pas mettre le hijab car elles commettent trop de péchés. Ça voudrait dire qu'en commettant beaucoup de péchés, tu ne peux pas revenir à Allah, que tu es condamné à t'enfoncer, que tu ne peux pas te réformer, que tu ne peux pas te faire pardonner. Alors qu'Allah, il a dit, Inna rahmati sabaqat ghadabi, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Et qu'il a dit, lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. Rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Plus tu fais d'efforts pour te rapprocher d'Allah, plus tu seras récompensé. Que ce soit peu ou beaucoup, tu auras ta récompense. Allah, il récompense toujours l'adoration. Le plus important, c'est l'intention et la sincérité que tu y mets. Donc, même si tu lis très peu de Qur'an, c'est toujours mieux que de ne pas en lire du tout. Car une seule lettre lue de la parole d'Allah équivaut à 100 hasanat, à 100 bonnes actions. Une personne qui n'ouvre même pas son mushaf ne peut pas bénéficier de cette récompense. Alors que toi, même si tu ne lis que 5 lignes, eh bien, tu bénéficieras de la récompense qu'il y a dans la lecture de la parole d'Allah. Aujourd'hui, tu lis 5 lignes, demain, Inch'Allah, tu en liras 10, puis 15, puis 20, et à chaque fois, ta récompense sera multipliée par le nombre de versets que tu as lus. Même si tu lis avec difficulté, avec hésitation, même si ta lecture n'est pas fluide, c'est pas grave en fait. Fais-le quand même, car tu auras une double récompense, celle de l'effort et celle de la lecture. Les 5 prières quotidiennes, c'est la base. Hein? Et après elles, les meilleures prières sont celles de nuit. Inch'Allah, tu vas te lever la nuit, même si c'est 20 minutes avant le Fajr, et tu vas accomplir 2 unités de prière. Et puis, au fil des jours, tu vas avancer ton réveil de 5 minutes pour pouvoir accomplir cette fois-ci 4 unités de prière. Puis 6, puis 8, et ainsi de suite. Ou alors, tu peux aller à la mosquée faire le tarawih. Ça peut être une option aussi. L'aumône, même si tu ne donnes qu'un euro, et c'est très bien. Tu n'es pas obligé de donner des 1000 et des 100. C'est le geste qui compte auprès d'Allah. Tu peux accomplir beaucoup d'adorations, mais si elles ne sont pas faites pour Allah, si elles ne sont pas faites avec une bonne intention, si elles ne sont qu'ostentation, c'est zéro. Et dans tout ce que tu fais, tu dois toujours viser plus haut. Le musulman, la musulmane, cherche toujours à viser plus haut, toujours mieux. Tu dois chercher à t'améliorer, à te corriger, à te rectifier pour ton Seigneur. Il ne faut pas stagner et rester au même niveau. Il faut évoluer dans le but, Inch'Allah, d'atteindre la piété. Et si c'est ce que tu souhaites, et normalement, c'est ce que tu dois souhaiter. Après, la stagnation, c'est mieux que la régression. Mais c'est comme quand on est en cours, on veut toujours avoir une meilleure moyenne que le trimestre ou le semestre précédent. Et on va travailler pour. Avec Allah, c'est pareil. Si tu veux que ta relation avec lui soit forte, si tu veux que la récompense de tes œuvres soit plus grande, il va falloir travailler pour, en augmentant tes actes d'adoration envers lui. 5e conseil, éloigne-toi des choses qui te causent le plus de tort. Parmi les choses qui te causent le plus de tort, et qui ont un impact négatif sur ta personne, bien évidemment, en premier, on a les péchés. Tous les péchés sont mauvais. Tous les péchés mènent à la baisse de foi. Mais toi-même, tu sais, ma sœur, tu le sais, hein, qu'il y a des péchés en particulier qui ont de plus grandes conséquences sur ta personne, sur ta foi. C'est un peu comme s'il y avait une hiérarchie dans le degré des mauvaises actions. Et subhanallah, ce n'est pas pour rien hein, qu'on a les kaba'ir, qu'on a les grands péchés et les petits péchés. Il y a des péchés que tu vas commettre avec certaines personnes en particulier. D'autres que tu vas commettre dans des lieux ou des circonstances en particulier. Donc, tu vas devoir t'éloigner de ces personnes et ces lieux en question. Tu vas devoir éviter de te mettre dans des situations dans lesquelles tu sais que tu es susceptible de flancher. C'est pas facile, hein. Je te dis pas que c'est facile, hein. Mais parfois, pour le bien de ta foi, pour le bien de ta pratique, eh bien, tu n'as pas le choix. Il faut savoir prendre des décisions qui te permettront d'avancer et de cheminer correctement dans le chemin d'Allah. Même si c'est douloureux, tu dois t'éloigner, tu dois délaisser tout ce qui a de mauvaises répercussions sur ta personne si tu veux profiter au mieux de ton mois de Ramadan. Sixième conseil, accorde-toi un moment de repos dans la journée si tu le peux. Je dis bien si tu le peux, hein. Accorde-toi un moment de calme, fais une petite sieste, repose-toi sans forcément dormir, parce que le repos ce n'est pas uniquement le sommeil, mais juste le fait de ne rien faire, de souffler, de souffler un peu pour reprendre de l'énergie, même si ce n'est qu'une petite demi-heure. Ne fais surtout pas l'erreur, surtout, de faire une grosse sieste, sinon ça va casser ta journée et tu vas prendre du retard sur tout ce que tu devais faire et tout ce que tu voulais faire. Par exemple, moi, j'ai besoin d'un temps d'accalmie, sinon je tiens pas. Je ne tiens pas. Mais après, c'est parce que je vis dans le bruit en permanence. Mon fils qui est autiste, il passe son temps à crier. Et en général, une fois que les deux grands ils retournent à l'école à 13h30, c'est là que j'impose un temps calme. Et pour moi et pour mon fils. Je le fais s'allonger ou s'asseoir sur le canapé et je l'empêche de courir dans tous les sens. Et subhanallah, à force, voilà, il a assimilé. Il a très bien compris que quand je ferme les rideaux et que je l'allonge, c'est l'heure de se calmer. En plus, tu sais, subhanallah, le jeûne, ça fatigue hein, physiquement. Surtout moi, je suis diabétique. Hein, et donc, c'est primordial hein, de trouver un temps de repos. Même si c'est une demi-heure. Septième conseil, qui est dans la continuité de celui que je viens de te donner, dors le plus tôt possible. Il y a 5 ans en arrière, je n'aurais pas pu te donner ce conseil parce que, qu'est-ce que je dis, il y a même moins de 5 ans, hein, parce que pendant la période de l'année dans laquelle on jeûnait, les nuits étaient très courtes. Et je te cache pas que c'était extrêmement difficile. Même pour moi. Pourtant, subhanallah, je suis pas une grosse dormeuse, hein, mais honnêtement, c'était dur. Les nuits étaient tellement courtes et saccadées que j'en avais des migraines toute la journée. Le Isha était tard, le Fajr super tôt. Mais là, alhamdoulilah, l'écart entre le Isha et le Fajr, il devient raisonnable. Pour réussir à te lever dans la nuit et pour ne pas rater Salat al-Fajr, essaye de dormir le plus tôt possible. Avant, j'aimais bien dormir tard. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, hein, et j'ai compris. Je ne dépasse pas 23h minuit, grand maximum. Et si je pouvais dormir plus tôt, franchement, je le ferais. Mais bon, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un foyer à gérer, donc on fait comme on peut. 8e conseil, continue d'adorer Allah, même lorsque tu es indisposé. Les deux seules choses que tu ne peux pas faire lorsque tu as tes menstrues, c'est la prière et le jeûne. Excepté ces deux adorations, tu as accès à tout le reste. Tu as accès à la lecture du Coran, que tu peux lire en mettant des gants ou à l'aide d'une tablette ou d'un téléphone. Tu as accès à l'invocation, tu as accès à l'évocation d'Allah, le dhikr. Tu as accès à l'écoute du Coran, à l'aumône, tu peux participer à des assises. En fait, subhanallah, tu peux faire plein de choses. Ce n'est pas parce que tu as tes règles que ça y est, tu es exempté de toute adoration. Pas du tout. Et fais attention à ne pas tout délaisser durant cette période. C'est vrai que ne pas pouvoir accomplir la prière, c'est une grande privation, on ne va pas se mentir. Mais c'est dans ces moments-là aussi que tu dois prouver, que tu dois montrer à Allah que malgré ça, eh bien, tu prends quand même soin de ta foi. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas prier que tu dois et que tu vas régresser et retomber dans les péchés. Les menstrues ne sont pas une permission pour commettre des mauvaises actions. Attention, tu entretiens ta foi en toutes circonstances. Ok, ma sœur? Neuvième conseil, et pas des moindres, diminue le temps que tu passes sur les écrans. Le smartphone, est une des meilleures inventions, une des inventions les plus intelligentes du 21e siècle. Et en même temps, c'est l'une des plus destructrices à cause du temps qu'on y perd, notamment sur les réseaux sociaux. À la base, la fonction d'un téléphone, c'est de permettre à deux personnes de communiquer en s'appelant, en étant à deux endroits différents. Maintenant, on peut tout faire avec. On peut faire tellement de choses, subhanallah, qu'on en perd un temps monstre. Tu peux passer des heures et des heures devant ton écran sans voir le temps passer. C'est hyper chronophage. Et ce même temps que tu as passé à regarder une série ou à scroller sur les réseaux, tu aurais pu le mettre dans des choses tellement plus utiles et bénéfiques. Tu imagines, ma sœur, si tu passais autant de temps sur ton Coran que sur ton téléphone, si tu passais autant de temps en prière que sur tes écrans, si tu passais autant de temps en adoration que sur les réseaux sociaux, juste imagine, tu serais très, très, très loin devant. Tu aurais clôturé le Coran, l'apprentissage, la mémorisation du Coran depuis belle lurette. Tu aurais un bagage religieux conséquent. Tu aurais accompli énormément de choses religieusement et spirituellement parlant. Inch'Allah, pendant Ramadan, on va tout faire pour éviter de perdre trop de temps dans ça et le mettre dans les adorations, dans les choses qui nous seront profitables. Il faut savoir déconnecter quand c'est nécessaire. Et enfin, dixième et dernier conseil, profite du mois de Ramadan en profitant du pardon, de la miséricorde, de la bénédiction, de la générosité, du mérite et de la récompense en abondance qu'Allah y a mis. Invoque-le. Demande-lui pardon. Demande-lui de te faire miséricorde. Demande-lui absolument tout ce que tu souhaites. Allah, c'est le seul qui peut exaucer tout ce que tu demandes. Repens-toi. Réforme-toi. Profites-en pour changer, pour évoluer, pour repartir sur de bonnes bases et pour devenir une personne meilleure, Inch'Allah. Ramadan Mubarak, je te souhaite un excellent mois de jeûne, Inch'Allah. Je te souhaite de glow up, de level up, spirituellement parlant. J'espère que mes conseils te seront utiles et bénéfiques. N'hésite pas à partager pour que ça profite un maximum de personnes, Inch'Allah. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas ouais, à laisser des petits cœurs. Je te remercie de ton écoute, ma sœur. Wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.